du Vivaldi qui a insufflé l'esprit baroque, puisqu'on joint le musicien et directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque, Mathieu Lucier, pour en savoir plus sur la nouvelle saison. Bonjour Mathieu Lucier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, c'est le 10 septembre aujourd'hui, une date importante pour vous, je crois.
Ben oui, on avait prévu le coup, mais on s'était dit, et si nous commencions nos concerts en salle un peu plus tard, et si nous trouvions une autre façon d'être présent pour la rentrée culturelle que des concerts en salle. Donc aujourd'hui, on lance notre documentaire Baroque, vous avez dit Baroque, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, de fierté. Alors, c'est lancé dans l'univers, sur Internet, pour tout le monde. Les gens qui connaissent la musique baroque et ceux qui la connaissent pas du tout, qui en ont entendu parler, qui sont pas sûrs que c'est pour eux, 23 minutes de pur plaisir, je pense. C'est décontracté, c'est amusant. Puis je pense qu'il faut pas bouter notre plaisir, puis juste s'offrir une petite pause baroque dans les prochains jours pour voir ce que nos musiciens et musiciennes leur présentent.
Alors, si on veut accéder à ce documentaire, c'est par Internet qu'on va le trouver?
C'est sur Internet, oui, sur le site d'Arion, arionbaroque.com. C'est là, c'est sur les réseaux sociaux aussi d'Arion. On est sur Facebook. Je pense même qu'on est sur Instagram, mais là,
okay.
C'est mon vieil âge qui parle.
Arrêtez,
je suis moins
donc
sûr pour Instagram.
Alors,
Facebook, je connais ça.
Oui, mais vous êtes plus jeune que la musique que vous nous offrez. Mais en
oui,
quoi la musique baroque est toujours intéressante, actuelle? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pourquoi on fait de la musique baroque, on en propose toujours aujourd'hui en 2021?
D'un point de vue très technique, là, en fait, la musique baroque, elle est construite exactement de la même façon que la musique populaire aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une mélodie et des accords qui soutiennent et le reste, c'est vraiment une question d'instrumentation. Donc, une chanson populaire, une pièce de jazz est construite en général à peu près de la même façon que les œuvres de musique baroque. Puis, ce que les compositeurs de l'époque du 18e siècle donc cherchaient à faire, c'était de créer des émotions fortes, des contrastes. Alors, c'est des passions, c'est de l'amour, de la trahison, de la vengeance, de la mort, mise en musique. Et les instruments de l'époque étaient capables de beaucoup de mordants. Alors, c'était vraiment ce qui déterminait si une prestation était convaincante à l'époque. C'est est-ce que les forts étaient vraiment forts, les doux étaient vraiment doux? Est-ce que la musique de passion était vraiment touchante? Donc, c'est vraiment proche des émotions. C'est pas une musique qui est rationnelle. C'est vraiment une musique des passions humaines. Puis ça, je pense que l'amour, la mort, la trahison, la vengeance, qu'on soit né en 1710 ou en 1970, c'est la même chose.
Ah oui, c'est éternel. Et
oui.
Dans le communiqué que j'ai lu, vous nous promettez une saison 2021-2022 sous le signe du renouveau et des oui. retrouvailles. En clair, ça veut dire quoi?
En fait, Arion, depuis l'année dernière, l'année pandémique, c'était notre 40e saison. Alors, disons qu'on a révisé un peu le party qu'on avait prévu.
Bien, oui.
Mais, donc, une des formules qui fait, en fait, la singularité d'Arion, c'est les chefs invités. Alors, Arion, pendant plusieurs années, sous la direction de notre précédente directrice artistique et fondatrice, Claire Guimond, avait des chefs invités. Donc, chaque programme, il y avait un artiste qui était invité à diriger l'orchestre. Et ça, pendant la pandémie, c'était plus difficile parce que nous, les chefs de l'international, ils ne pouvaient pas venir. Alors, c'est moi, comme directeur artistique, et je suis chef d'orchestre aussi, qui a dirigé une grosse partie de nos programmes. Donc, cette année, quand on parle de retrouvailles, on parle des retrouvailles du public en salle en plus grand nombre, parce que l'année dernière, on a fait un seul de nos 5 programmes avec des gens en salle, puis il y avait 85 personnes, là, et le retour de chefs invités. Donc, en janvier, en mars, nos invités reviennent. Donc, c'est le plaisir aussi de renouer avec nos complices du Studio Musique Ancienne de Montréal, avec qui on lance la saison au mois de novembre. Alors, c'est en ce sens-là que c'est une saison de retrouvailles. Puis le renouveau ou la renaissance, je pense qu'on se sent tous un petit peu comme ça. Moi, j'étais au théâtre hier, puis mais quelle sensation extraordinaire.
C'est vrai.
D'avoir autant de gens autour de moi, de voir un spectacle vivant comme ça, pas à travers mon iPad ou mon ordinateur, même si ça nous aidait à passer à travers la tempête.
Alors, pour votre premier concert, il faudra patienter quand même jusqu'en novembre.
Oui, il faut patienter jusqu'en novembre. Ça nous permet à tous de nous trouver nos passeports vaccinaux plus rapidement sur nos téléphones. Puis ça permet aussi, en fait, justement, peut-être à cette quatrième vague de s'essouffler un petit peu pour que le programme qu'on a prévu, la Chapelle du Roi Soleil, donc des motets, des œuvres chorales avec, on aurait 10-12 chanteurs, un orchestre, 15-16 musiciens sur scène, ben, qu'on soit en mesure de présenter ça comme on souhaite le faire sur la scène magnifique de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. On aurait dû normalement amorcer notre saison comme à l'habitude en septembre ou début octobre. Les coproducteurs qu'on avait pour ce concert-là, qui était celui des Cantates de Bach, qui est dans notre saison, mais au mois de décembre, la salle Bourgie qui produit ce concert-là disait en septembre, je sais pas où on va être, mais il y avait une petite inquiétude quand même. Alors on s'est dit, et comme j'ai dit tout à l'heure en début d'entrevue, et si on commençait juste un tout petit peu plus tard, en s'assurant que les amateurs de musique baroque, les amateurs d'art en général, soient rejoints par notre proposition documentaire, ben au moins ça montre qu'Arion est bien vivant, qu'on va être là tout au long de la saison, mais que pour le retour en salle, on se donne une petite chance encore.
Absolument, puis on l'appréciera peut-être encore plus, et on va pouvoir aussi découvrir à l'intérieur de ce concert-là la Chapelle du Roi Soleil, qui sera présentée trois fois plutôt qu'une, 19, 20 et 21 novembre, le serpent, un instrument que je ne connaissais pas, mais qui fait peur.
Oui, ça fait peur en théorie, parce que le serpent, c'est menaçant.
Mais même quand on le voit...
Oui. Oui. Attendez de l'entendre. Non, mais le serpent, en fait, c'est fascinant parce que c'est un instrument qui accompagnait le chant grégorien dans les églises catholiques en France, mais au Québec aussi, jusqu'au tout début du 20e siècle. Alors, il y avait plusieurs joueurs de serpent au Québec et c'est complètement disparu. Les instruments ont disparu. Personne ne se souvient d'avoir connu ça, mais c'était quelque chose qui était assez présent et depuis le début de la fondation de la Nouvelle-France. Donc en France aussi, jusqu'à la fin du 18e, début 19e, il y avait donc un joueur de serpent, ou deux des fois dans les églises, qui accompagnait le chant grégorien.
Comment on les appelle, les joueurs de serpent?
Je pense qu'on les appelle les joueurs de serpents.
Okay.
de nos jours, maintenant qu'on a vécu Harry Potter, je dis qu'ils s'appellent les serpentards aussi, ah, oui. Mais peut-être on peut dire serpentiste. En fait, il y avait aussi, mais c'est un instrument très particulier qui est en bois, recouvert de cuir. Alors, c'est magnifique comme instrument et c'est joué avec une embouchure comme un trombone ou un cor. Donc, ça appartient comme à la famille des cuivres, mais ça a des caractéristiques de la famille des bois. Alors, c'était parfois les bassonistes qui jouaient de ça à l'époque. Maintenant, c'est surtout les trombonistes, des fois les tubistes qui apprennent ça. Moi, c'est un instrument que j'ai découvert dans des projets de recherche, puisque je suis aussi professeur d'université, et je suis comme tombé en amour avec cet instrument-là, et je me suis mis à en jouer. Ça a été mon projet de pandémie d'apprendre à jouer de serpent, mais je veux rassurer tout le monde, il y a un serpentard ou un serpentiste professionnel qui va être sur scène au mois de novembre. Et si moi je joue, ça va être pour qu'on fasse une petite démonstration à deux serpents, mais il faut que je me rappelle que je suis débutant, bien que très enthousiaste, et je ne veux pas ruiner ma carrière par cet enthousiasme.
Oui, parce que vous, votre instrument, c'est le basson.
C'est le basson, effectivement.
Alors, le serpent a l'air vraiment, cet instrument-là me fait penser un peu à un serpent à sonnette. Alors, c'est intriguant et ça donne encore plus le goût de se rendre à la salle Bourgie pour entendre, découvrir le son de cet instrument. Et plus tard, donc en décembre, vous vous transportez à la Grande Bibliothèque.
Oui. En fait, à la Grande Bibliothèque, Arion va être très fier de présenter pour la première fois un spectacle jeunesse. Alors, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il y avait une demande pour un spectacle pour des enfants. C'est conçu, en fait, pour tout public, mais on a gardé les adolescents en tête pour ça. C'est un spectacle qui s'appelle « La révolte des anciens », une sorte de joute ou d'un duel en musique avec un comédien sur scène, 5-6 instrumentistes, et donc ça va être offert gratuitement à la Grande Bibliothèque. C'est dans le cadre du Festival Bach, donc ce grand festival qui arrive à chaque année, et à chaque le Festival Bach souhaite toujours avoir une production jeunesse. Cette année, c'est Arion qui a le privilège de rejoindre ce public-là. Alors, pour nous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on plonge dans l'aventure et on voulait aussi s'assurer que ce soit accessible à tout le monde, qu'il n'y ait pas de contraintes liées à des ventes de billets ou quoi que ce soit. Donc, c'est dans le grand amphithéâtre de la Bibliothèque nationale dans le centre-ville de Montréal. C'est un bel endroit pour faire ce spectacle-là. Alors, on très excité.
Mais oui, c'est en après-midi. Puis il va y avoir des instruments là, que les jeunes vont pouvoir, peut-être pas essayer, là, mais ils vont pouvoir se familiariser avec des instruments.
Oui, ils vendent la flûte à bec, du violon, du violoncelle, de la harpe. Aussi un comédien qui fait aussi la mise en scène du spectacle.
Qui donc, est le comédien?
Isabeau Corriveau.
OK, Isabeau Corriveau. Oui. Alors, oui. Vous avez parlé tantôt du concert Bach. Ça, c'est à l'approche de Noël?
Oui, c'est à fin décembre. Alors, c'est dans le cadre de la production de toutes les cantates de Bach. Ça, c'est vraiment plusieurs centaines de cantates que la Salle Bourgie, la Fondation Arte Musica, s'était lancé ce défi-là il y a quelques années. On approche de la fin. La COVID a ralenti le truc. Et donc, Arion est invité à présenter quatre de ces cantates-là. Donc, vraiment, le dernier week-end avant Noël, 18-19 décembre. Donc, on est vraiment ravis. Arion a été aussi l'aventure de cette présentation-là au début du processus. Et donc là, on revient faire un tour dans la liste d'invités pour ça. Et c'est une musique extraordinaire. Donc, quatre chanteurs, un orchestre, beaucoup d'instruments aussi, des instruments avant qui sont mis à l'honneur dans ces cantates-là, des cordes, des hautbois, du basson.
Et la Salle Bourgie peut contenir combien de personnes là maintenant que vous pouvez en accueillir un peu plus avec le passeport vaccinal?
Ça change un peu tous les jours. Je veux dire, jusqu'à tout récemment, c'était 250. On espère pouvoir monter ça justement avec le passeport vaccinal. Rendu au mois de novembre, on espère être un peu plus nombreux, mais ça, c'est rien, pas de contrôle là-dessus. La Salle Bourgie va évidemment s'ajuster aux mesures qui seront permises. Donc, je ne vais pas m'avancer plus loin que ce chiffre-là de 250 pour l'instant aujourd'hui.
OK. Et puis, tantôt, on entendait du Vivaldi. Il y aura Boris Begelman. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est un violoniste qui est de retour à la direction d'Arion.
Oui. C'est un collaborateur qui est déjà venu diriger Arion. Boris, c'est un violoniste extraordinaire. Il vient d'enregistrer justement un album de concerto de Vivaldi qui a été salué par la critique internationale. Et donc, il nous propose tout un programme centré autour de la musique de ce compositeur-là qu'il aime beaucoup. Il va avoir des concertos de violon, il va avoir des concertos pour plusieurs violons, il va avoir des concertos pour flûte à bec, pour hautbois aussi, qui vont mettre en vedette d'autres musiciens d'Arion. Alors, c'est un beau programme.
Bien oui, en janvier. Et on termine avec Baroque au féminin, une première au Canada. Je lisais là-dessus et je me disais, il était plus que temps.
Entièrement d'accord. et c'est dans l'air du temps. On se rend compte qu'il y a vraiment inexcusable qu'on n'ait pas fait ce genre d'exploration-là plus tôt. Évidemment, pour corriger ces aberrations-là, des fois, on peut... Faut faire des recherches, mais il y a des gens qui avaient des longueurs d'avance. Et moi, j'ai rencontré il y a quelques années Heather Newhouse, qui est une soprano canadienne, mais qui vit en France, qui était venue faire une prestation avec l'Orchestre symphonique de Montréal il y a peut-être 3 ans, et qui m'avait parlé du travail de Franck-Emmanuel Comte à Lyon, en France, et qui travaillait beaucoup sur les œuvres des compositrices italiennes et françaises des 17e et 18e siècle. Donc, Heather et Franck-Emmanuel travaillent souvent ensemble. Et ça, c'est un des programmes qui aurait dû avoir lieu dans la saison 2021, qui est reporté donc la saison prochaine. Donc, il va y avoir, oui, la musique de Jean-Philippe Rameau, qui est comme peut-être la figure phare du baroque français de cette époque-là, mais aussi donc plusieurs œuvres de compositrices françaises qui ont eu de belles carrières à cette époque-là. Élisabeth Jacquet-Laguerre est, disons, une des plus connues avec des gros guillemets, mais des œuvres donc de compositrices dont on a très peu ou pas du tout entendu la musique jusqu'à maintenant. Julie Pinel, Mademoiselle Duval, qui a fait tout un grand opéra, vraiment. Comme
super! Baroque au féminin en mars, c'est tout le temps qu'on a. Un grand merci, Mathieu.
Parfait.
Lucier.
Merci à
Bonne
vous.
Saison.
Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.